Chers frères et sœurs, ce n'est pas une question anodine que pose notre évangile de ce matin. Il s'agit de la vie éternelle, rien moins que cela. C'est-à-dire la résultante, si je puis dire, de la vie de tous les jours que nous menons sur cette terre. Question donc essentielle, et que cet homme a raison de poser à Jésus, car elle est centrale. Pourtant, les réponses de Jésus ne sont pas celles sans doute que nous attendons. Elles sont déconcertantes à plus d'un titre. D'abord, lorsque Jésus lui-même cite les commandements, est-ce oubli, est-ce volontaire, il ne mentionne pas le grand commandement de l'amour. Il donne une série de commandements négatifs qui s'achèvent quand même enfin par un commandement positif qui est celui de la révérence de l'amour envers les parents. Premier étonnement. Deuxième étonnement, la réponse que fait cet homme. J'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Mais enfin, qui en ce monde peut parler ainsi et prétendre n'avoir jamais manqué à un seul commandement depuis sa jeunesse? Et Jésus ne va pas le reprendre en lui disant « Mais tu es un menteur, tu es un hypocrite ». Il va continuer. Et il va continuer par une troisième remarque presque ironique. Une seule chose te manque, c'est ce que tu as. Va, vends tout ce que tu as. Il y a comme une forme d'ironie dans cette réponse. Ce qui te manque, c'est ton avoir. On peut comprendre dans l'insistance de Jésus sur la méfiance, sur la défiance par rapport aux richesses, on peut comprendre que ses disciples aient été de plus en plus embarrassés. Marc le note à deux reprises, les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, et comme si ça ne suffisait pas, de plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient, etc. Y a-t-il donc dans la possession des richesses en elle-même, comme une sorte de fatalité, le riche serait automatiquement condamné parce qu'il possède des richesses? Non, les choses ne sont pas aussi simples que cela, pas aussi simplistes. Mais il est un fait que nous observons tous dans nos vies, que les richesses deviennent vite un obstacle à la relation, de deux manières. Souvent, les richesses nous rendent aveugles, aveugles sur la détresse de l'autre. Et bien vite, de l'aveuglement, on passe à l'insensibilité et donc à l'incapacité pratique de répondre à la détresse de l'autre. Ce travers, directement lié à un mauvais regard posé sur les richesses, est bien traduit dans une parabole que nous connaissons, la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le deuxième travers dans lequel peuvent nous entraîner les richesses, et je crois qu'il faut le dire dans la société riche qui est la nôtre en Suisse, c'est que la richesse donne l'illusion d'une perpétuelle sécurité. Avec la richesse, je vais toujours m'en sortir. Et ainsi passe-t-on petit à petit, oh, c'est jamais du jour au lendemain, mais c'est un état d'esprit insidieux qui s'installe à une forme de ce que l'on pourrait appeler un athéisme pratique. Au lieu de me référer à Dieu dans ma détresse, je vais m'adresser à ma richesse, parce que elle, le sonnant et trébuchant, ça a un véritable poids. Là aussi, une parabole de Jésus nous a mis en garde. Souvenons-nous, cet homme qui avait fait des récoltes si mirifiques et qui se demandait comment il allait pouvoir les entreposer dans ses greniers. Alors, comme il a les moyens, il se dit, bien voilà, je vais construire des greniers plus grands, tout simplement. Oui, sauf que la réponse à la finale de cette parabole est celle-ci, insensé. Cette nuit même, on va te demander ta vie. Et donc, qui aura ces fameux biens que tu veux entreposer dans tes greniers ? Nous le voyons, une façon fausse de se situer par rapport à la richesse vient contrevenir très exactement aux deux grands commandements. Dans la mesure où elle nous entraîne à une forme d'athéisme pratique, elle nous coupe de la relation avec Dieu. Dans la mesure où elle nous rend aveugles et insensibles aux pauvres, elle nous coupe de l'autre, l'autre humain, celui qui est la même chair que moi, comme dit le prophète Isaïe. Si le tableau s'arrêtait ici, il serait assez sombre. Heureusement, Jésus va plus loin. Et devant l'air de plus en plus déconcerté de ses disciples, il va affirmer quelque chose, ce n'est pas le seul lieu dans l'Évangile, mais ici ça résonne très fort. Pour les hommes, le salut, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Comment traduire ce « tout est possible à Dieu » dans le contexte de cet entretien de Jésus avec cet homme ? Eh bien, tout est possible à Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut toujours sauver. Et très concrètement, par rapport à cet homme, cela signifie quelque chose. On nous disait, Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Le fait que cet homme, à cette heure, nous ne savons pas la suite, à cette heure en tous les cas, n'a pas été capable de répondre au Christ ne signifie pas que le Christ lui retire son amour. Cela ne signifie pas non plus qu'il annule sa parole, qui était celle-ci, « Suis-moi ». Et nous avons le droit de penser que cette parole « Suis-moi » a continué de travailler ce cœur humain. Et dans le « Suis-moi », nous trouvons précisément ce qui est l'expression profonde de la vie éternelle, qui n'est rien d'autre que cela, être avec le Christ. Le suivre, c'est-à-dire être avec lui. Et nous retrouvons bien la préoccupation première de cet homme. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Il ajoutait « en héritage », comme si c'était quelque chose qui devait intervenir dans le futur. Eh bien non, la vie éternelle est déjà commencée. Elle nous est déjà offerte pour le présent. Car sur chacun, chacune de nous, Jésus a déjà posé ce regard d'amour. Et à chacun et chacune de nous, il a déjà dit « Suis-moi, sois avec moi, reste avec moi ».